Jacinthe Varel, comment ça va?
Ça va bien.
Content de te voir en ce vendredi. Tu termines bien la semaine avec nous autres. On est heureux de t'avoir.
Ben moi, je aussi. Ouais. Je me sens choyé d'être parmi vous.
Denis agace beaucoup trop Max, ce qui fait en sorte que le vendredi, ben, on veut donner un break à Max.
Ben oui.
T'as-tu passé une belle semaine?
Très belle semaine.
T'as passé une belle semaine. All right. Puis ça, la route, comment c'était?
Hey, c'est pas joli. C'est pas joli. C'est glacé.
Encore?
Oui, c'est glacé. C'est pas bien déneigé partout non plus. Alors, c'est intense quand même.
Voilà. Les petits sujets qu'on a jasé, toi et moi, aujourd'hui. Je sais pas si tu l'as vu passer. Il y a pas grand monde qui ont parlé de ça, Jeff. Quand je t'ai envoyé l'article, t'avais-tu entendu des gens discuter de ça, ce qui se passe en France concernant la montée du prix de l'essence?
Non, j'avais pas entendu parler de ça. Tu m'as renseigné avec l'article que tu m'as envoyé.
Je trouve ça formidable.
Ben oui.
Peut-être que si M. Drainville nous écoute, il pourrait peut-être glisser ça dans son programme. En France, à Saint-Ève, on a décidé de mettre une escouade qui vont aller vérifier dans chaque essencerie le montant que les propriétaires de ces essenceries-là veulent se mettre dans les poches.
Uh-huh.
Puis ils vont demander à ces propriétaires-là de justifier le prix qu'ils chargent à la pompe.
Ouais.
Ça, là, je trouve ça extrêmement pertinent.
Bien, je comprends ton contentement de ça. Je comprends que à première vue, moi, je trouve que ça fait partie des solutions souvent qu'à première vue, on trouve que c'est une bonne idée. Puis quand on analyse puis on gratte un peu, c'est pas si sûr que ça que c'est une bonne idée.
Mais
dans
tu ferais,
le sens
tu ferais quoi?
Où, ben, dans, la France est prise avec les mêmes problèmes que nous.
Ouais.
Une fiscalité extrêmement égorgeante pour les entrepreneurs, extrêmement égorgeante encore plus pour le citoyen moyen, pour les contribuables. Et ça fait en sorte que, la moindre hausse du prix de l'épicerie, la moindre hausse du prix du pétrole fait que, là, il y a un problème. On est obligé de sacrifier des besoins de base au sein de plusieurs familles françaises parce qu'ils ne sont pas capables d'absorber cette hausse de coûts-là. Alors, l'État devrait-il vraiment se substituer, par exemple, ici au Canada, on a le Bureau de la concurrence qui est supposé faire ce travail-là de surveiller à la pompe. Le Bureau de la concurrence existe pour ça. Alors, demandons pas à nos politiciens de commencer à faire de la surveillance dans des commerces au détail pour vérifier ce à quoi on a un organe qui est dédié à ça. Sa mission première du Bureau de la concurrence, c'est justement s'assurer qu'on a des prix
justes. Mais
pourquoi
ça marche pas, ce Moses de bureau-là?
Parce que si je regarde en France, là, de la façon dont ça fonctionne, c'est le politicien, Roland Lescure, qui est le ministre de l'Économie, qui a demandé à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'effectuer des contrôles dans les stations-service à travers le pays. Moi, je trouve ça formidable que les essenceries aient un genre de police des prix. Puis si jamais tu tentes de crosser ton client, ben on va te taper ses doigts ou encore on va te dénoncer. C'est pas normal qu'il y ait, en fin de semaine passée, 30 cents de différence entre une essencerie qui est sur le bord de l'autoroute puis l'autre qui est un petit peu plus loin, quelques kilomètres, un peu plus près des lignes américaines. C'est anormal.
C'est anormal. T'as raison. Je suis d'accord avec toi. Mais là, il fait de la politique, ce ministre, M. Lescure, en France. Il fait carrément de la politique. C'est du populisme, ça, parce que, pense-y, là, des...
C'est pas mal d'être populiste, une fois de temps en temps.
Ah, moi, j'ai rien contre le populisme. Absolument pas. Mais là, dans ce cas-ci, on s'adresse à la population en voulant se montrer rassurant. On met des équipes en place, mais combien ça coûte ces équipes d'inspecteurs-là en place? Et ils relèvent d'une bureaucratie, d'une hiérarchie qui coûte aussi de l'argent administré par l'État. Au fond, là, ça, c'est une mesure pour nous satisfaire, nous qui n'avons pas beaucoup de temps de réfléchir, d'analyser les données, puis on se dit, ah ben enfin, le gouvernement prend en charge. Mais quand le gouvernement prend en charge, ça coûte quelque chose. Il y a des gens affectés à ça. Il y a des gens affectés à l'opérationnel. Il y a des gens affectés à la supervision, à la gestion, à la direction de tout ça, à la reddition de comptes. Et au bout du compte, ben ce service-là coûte de l'argent aux contribuables. Pourquoi le gouvernement ne fait pas l'effort de regarder dans ses propres postes de dépenses et dire « on va faire des coupes drastiques dans les dépenses ». Et ça ne veut pas dire de faire des coupes dans les services, vous le savez. Nous le savons, on n'a pas besoin de couper en santé et en éducation pour faire des coupes dans le gaspillage. Et à ce moment-là, on peut relâcher la pression sur les contribuables, on peut relâcher la pression sur les entrepreneurs et s'assurer qu'il y a plus d'argent dans leur poche. Et ça, c'est plus complexe à faire. C'est beaucoup plus complexe à faire. C'est beaucoup plus complexe aussi à démontrer. Les retombées sur une population prennent un peu plus de temps et on n'est pas dans les apparences. Alors que là, cette mesure-là, c'est une mesure extrêmement efficace sur le plan des communications, efficace sur le plan de l'image. Mais moi, c'est toujours quelque chose que je regarde beaucoup. Est-ce qu'on est dans l'image, dans le paraître, où on est dans les mesures structurelles à long terme qui vont avoir un effet bénéfique?
Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu amènes le point du Bureau de la concurrence au Québec.
Mm-hmm. Oui.
Qu'est-ce qui crisse?
Ben, c'est exactement ce que j'ai dit. Pourquoi ça marche pas, ce Moses de bureau-là?
Ben, ces gens-là sont payés temps plein, là.
Pascal Paradis nous a dit la même chose hier. Il y a le Bureau de la concurrence. Ouais, mais ouais. Le Bureau de la concurrence, là, il m'aide pas ici en capitale nationale. Je le paye toujours trop cher, le gaz.
Il était au fédéral aussi, là. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Avec
ouais, ben, au fédéral, on a un passeport, on a Curam. Puis là, tu sais, je pourrais te faire une liste très, 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 très longue des ratés du fédéral.
Parce que j'ai l'impression que les taux se resserrent, là, parce que l'écart entre la plus basse essencerie et la plus haute essencerie ce matin à Québec est autour de 8 cents. Mm-hmm. Mais on a déjà eu du 30 cents.
Ouais.
C'est,
ouais.
Là, plus on en parle, plus on dirait que les stations-service commencent à se méfier parce que nécessairement, il y a des gens qui vont commencer à se poser des questions à savoir s'il y a de la collusion. Là. Ces gens-là, est-ce qu'ils se parlent? Moi, je pense que oui. Quand je travaillais chez Couche-Tard, j'avais 16 ans, je travaillais sur la Première Avenue. Puis là, il y a un monsieur qui m'appelait « Bon, Yann, dans 2 minutes, tu vas aller grimper dans le poteau, puis tu vas changer, tu vas mettre ça à... » Dans le temps, c'était 96 cents.
Ah oui, c'est
près,
ça.
Là. Tu vas mettre ça à 96.3. Puis là, j'allais chercher mon échelle, je montais dans le poteau, puis les clients qui passaient dans la rue m'insultaient en pensant que j'étais le PDG de l'entreprise. « Trou de cul!
» À 96 cents.
Mais si ces gens-là m'appelaient, ouais. Ça veut dire qu'ils devaient jaser avec d'autres personnes.
Ah
ben
ouais,
oui.
Ouais.
Fait, mais... quand on les pogne, plutôt que d'avoir une amende de 1 million comme ça s'est vu... Comme ça s'est vu au début des années 2000, bien ça devrait être un interdit de faire des affaires au Québec pendant, je ne sais pas moi, 2 ans, tiens.
Bien, ce serait intéressant que les aspirants chefs à la Coalition Avenir Québec et les aspirants candidats au poste de premier ministre pour les prochaines élections provinciales commencent à discuter des problématiques de monopole, de duopole et d'oligopole dans toutes sortes de secteurs. On peut parler des essenceries, mais on peut parler dans le secteur de l'alimentation aussi. On parle souvent des profits des épiceries puis du panier d'épicerie qui augmente. Puis là, il y a des gens qui s'imaginent avoir la fausse bonne idée de dire qu'il va falloir contrôler les profits des entreprises. Non, assurer une saine concurrence. Est-ce que c'est normal au Canada, par exemple, dans l'industrie du bœuf, il y a deux abattoirs, deux grands joueurs géants qui contrôlent 90% de l'abattage du bœuf au Canada. Quand tu as un duopole comme ça, deux géants qui contrôlent 90% de l'abattage du bœuf dans tout le pays, d'un océan à l'autre, ben c'est sûr qu'il y a un beau contrôle sur les prix.
Mais ils se parlent pas, ces gens-là.
Mais peu importe qu'ils se parlent. Non, mais qu'ils se parlent. Non, mais qu'ils se parlent ou non, de toute façon, t'as juste deux joueurs.
Mais ils n'ont pas le droit de
se parler. T'augmentes, ben oui.
Ils n'ont pas le droit de fixer les prix à deux.
À deux, puis les chaînes de distribution alimentaire sont concentrées principalement entre les mains de 5 grands joueurs. Bien, au Québec, ça. Donc, 5 seulement grands joueurs distributeurs alimentaires.
L'entonnoir est très, 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 très mince.
Absolument. Donc, il faut favoriser la concurrence. Comment un gouvernement peut faire ça? Bien, c'est de, justement, délégiférer, déréglementer, assurer qu'il y ait une espèce de marché libre qui se crée, assurer aussi la création de nouvelles entreprises, encourager la création de nouvelles entreprises, autant en agriculture. Avec les essenceries, ça peut être la même chose aussi. Que ce soit plus facile de lancer son entreprise, que ce soit plus facile de partir à zéro, que ce soit plus facile aussi de rester en affaires quand tu es un petit producteur, un petit essencier, un petit épicier, un épicier indépendant. Et tout ça, ben, c'est justement en s'assurant que l'État prenne moins de place, qu'il laisse plus le champ libre. Parce qu'en réglementant et en surréglementant, on ajoute un fardeau administratif aux entrepreneurs qui, finalement, sont noyés là-dedans s'ils n'ont pas la possibilité de faire des économies d'échelle.
On va parler tantôt avec l'aspirant en chef à la Coalition Avenir Québec, Bernard Drinville, qui, s'il est élu, sera le prochain premier ministre du Québec. On va faire une ligne ouverte avec lui. Jacinthe Varel, si tu avais la chance de lui poser une question, ce serait quelle question que tu poserais à M. Drinville aujourd'hui?
Allez-vous nous parler de nouvelles problématiques qui sont structurelles au Québec, mais qui sont moins avancées par les médias? Justement, comme la saine concurrence, comme la déréglementation, comme quand on dit on va couper le gaspillage dans la fonction publique, on sait que, on a vu les études récemment sortir, ça fait l'objet des manchettes depuis la semaine dernière, où l'État a grossi autant à Ottawa qu'à Québec, ce qui fait qu'une personne sur quatre travaille dans la fonction fonction publique. Est-ce qu'on est capable de discuter de ça, mais autrement que juste par dire on va dégraisser l'État? Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire exactement là, pour structurellement remonter la pente de notre économie? Parce qu'on est sur la même pente glissante que la France. Hein? La France va beaucoup moins bien que nous sur le plan fiscal, sur le plan économique. Mais on est sur la même trajectoire. On est juste un ou deux ou quelques kilomètres derrière, mais on s'enligne vers les mêmes problématiques.
8h20, Bernard Drinville sera avec nous dans les prochaines minutes. Si vous avez des questions pour lui, comme Jacinthe Varel vient de poser, bien, je vous invite à le faire par texto au 88-971-1021. On a mis aussi sur nos réseaux sociaux un endroit où vous pouvez poser vos questions, puis on va prendre des appels téléphoniques, bien entendu, puis je m'attends à ce que tout soit fait dans le respect, bien entendu. Dégraissage de l'État, tu viens d'en parler, Mme Duranceau, qui commence à faire le ménage. Elle ne remplace pas des gens qui partent à la retraite. Pourquoi ça se fait dans la troisième année du mandat de la Coalition Avenir Québec?
Oui, c'est ça. Parce que c'est devenu dans le discours public. Un des plus grands reproches que je peux faire à la Coalition Avenir Québec dans ces 7 années de mandat, on est dans la 8e, c'est justement d'avoir été en mode réactif. Ils se lèvent le matin, ces gens-là, les gens qui travaillent dans les cabinets ministériels, ils se lèvent très tôt, ils font des revues de presse à 5h du matin, 4h du matin, ils doivent faire des comptes rendus
à leur
ministre.
Mais là, ils gèrent en fonction de la revue de presse.
Ils gèrent en fonction de la revue de presse. Ils gèrent en fonction des
questions d'actualité. Au lieu de leur objectif puis leur promesse.
Absolument. Alors, on est constamment dans les cabinets en mode réactif. Qu'est-ce qu'on va dire à ça? Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Et on s'ajuste à l'actualité à place de créer l'actualité. Ce matin, on se lève. Qu'est-ce qu'on avait promis en 2017 puis en 2018 pour être élu pour la première fois avec un gros mandat phare des Québécois. Alors, on s'enligne là-dessus. On lit l'actualité, c'est important. Oui, on lit les lignes de presse, mais on s'enligne sur nos messages, nos promesses envers les Québécois.
Et pourtant, en campagne électorale, il faut contrôler le message. Donc, quand tu es au gouvernement et tu gouvernes, c'est la même chose. Il faut que ça soit toi qui dicte l'actualité, non pas qu'elle te frappe d'en face.
Absolument. Alors, France-Hélène Duranceau, tout d'un coup, s'ajuste à l'actualité. C'est de bon goût, c'est le goût du jour. On dit qu'il faut couper dans la fonction publique. Les études sortent, les constats nous frappent en plein visage. Alors là, elle adhère à ce mouvement-là. Elle est en mode réactif.
Je dis souvent aux auditeurs, Jacinthe-Ève, là, mais moi, ce qui me perturbe, puis j'en ai plein le cul de ces gens-là, c'est des gens qui commencent à travailler à partir du moment où leur poste est menacé.
Ouais, ouais.
Trop de gens fonctionnent sur la conduite automatique, là, puis garde, c'est pas grave, on est là pour 4 ans, puis ça va bien aller. C'est 3 ans de misère où on se pogne le cul, ouais, ou presque. Puis la dernière année, ben, si les sondages vont bien, on garde ça. Si les sondages vont mal, tiens, on va commencer à dégraisser l'État. C'était une promesse de François Legault de 2017, ça, l'État.
Ouais.
Puis il a failli à sa promesse pendant des années, en embauchant de plus en plus de gens. Puis là, on est pogné avec ce problème-là. Il faut subvenir aux besoins de ces gens-là parce qu'ils partent à la retraite. Puis là, c'est les pensions qui viennent avec ça.
Oui, puis on le fait pas toujours correctement quand on le fait à dernière minute comme ça. Là. Parce que là, on remplace pas ceux qui partent à la retraite. Attends une minute. Peut-être que certains qui partent à la retraite sont dans des postes qu'il faut absolument remplacer. Peut-être qu'il faut réduire certains services et réaffecter certains employés à d'autres fonctions. Mais là, on le fait simplement comme ça. Tu pars à la retraite, on remplacera pas tout de suite. Donc, il n'y a pas d'examen de notre fonction publique approfondie qui est fait. Et il n'y a pas, surtout, de prise de conscience de qu'est-ce que vous avez observé dans les 7 dernières années, chers hauts fonctionnaires de l'État. Est-ce que chaque sous-ministre, est-ce que les sous-ministres associés, les sous-ministres adjoints, nous ont fait des comptes rendus au fil de ces 7 années-là pour dire, voici dans mes services ce que je pourrais améliorer?
Max va nous parler de la prochaine mission de Bruno Marchand. Juste avant, 5 missions cette année. Les missions économiques, là, ça sert à quoi? Parmi celles que tu as vues passer, y en a-tu vraiment qui ont donné quelque chose d'extrêmement positif? C'est quoi les 5 missions économiques?
Bien, c'est pas tout économique parce que là, celle qui s'en vient dans les prochains jours, c'est on s'en va en Alberta, à Edmonton puis Calgary, puis on va regarder les pratiques en transport en commun, notamment pour ce qui est du tramway.
Mais on va avoir 13 milliards pour le tramway, ça fait partie de l'économie, ça?
Oui, on peut le voir comme ça. Il y aura une mission au pur terme là, économique, commercial, au Michigan avec Québec International au mois de mai. Il y aura le congrès biannuel de l'Organisation des villes du patrimoine mondial. Ça, c'est à Marrakech, au Maroc, au mois d'octobre. Puis il y a une ou deux missions qu'on ne sait pas encore c'est quoi. Là. Ce serait ça le plan, selon ce qui a été mentionné au Journal de Québec.
J'ai eu l'information de Mathias, qui était au point de presse hier, de Bruno Marchand avec l'Union des municipalités du Québec. Et c'est 1,5 million en contrat qui est émané de la visite, de la mission, devrais-je dire, à San Antonio au printemps dernier. C'est moi, Jacinthe, où c'est peu en crime, 1,5 million pour une économie?
Hey, c'est vraiment très peu, là.
Il y a des quand gens Mathias, qui... tu me dis, Bruno Marchand s'est vanté d'1,5 million. J'ai dit, ouais, peut-être que si j'aurais gardé le réflexe de Bruno Marchand, c'est-à-dire cacher les choses.
Oui, c'est ça. 1,5 million, c'est la valeur de la maison de quelques-uns de nos auditeurs quand même.
T'as raison. J'avais pas vu ça de moi-même.
Non, c'est très peu. Puis l'autre chose... Et on a une fâcheuse tendance à accorder beaucoup d'importance à ce que les politiciens vont faire là, à l'étranger parce qu'on dit qu'ils vont chercher des deals pour nous. Mais ouais. Moi, je trouve que c'est un insulte à toute la fonction publique qui est dédiée à ça à chaque jour. Par exemple, au gouvernement du Québec, on a le ministère des Relations internationales, 163 millions de dollars annuels dédiés à ce ministère-là, avec des délégations du Québec un peu partout sur la planète, avec des gens qui travaillent à temps plein sur développer des relations d'affaires. Bruno Marchand, quand il accompagne Québec international pour faire ses missions commerciales, il y a beaucoup de ce travail-là qui est de repérer les entreprises qui comptent faire des affaires ensemble et de leur serrer la main, d'entrer un petit peu dans leur réalité de transaction et de dire « Ah ben j'ai facilité cette transaction-là », mais qui nous dit que cette transaction-là n'aurait pas eu lieu sans l'interférence des politiciens? Moi, je vous garantis, il y a beaucoup de gens d'affaires au Québec qui font affaire aux États-Unis, qui font affaire un peu partout dans le monde puis qui n'ont pas nécessairement besoin de ce support-là, mais bon, leur est offert comme ça, on peut vous accompagner. Ouais, l'accompagnement est beaucoup l'apparence.
Quand ça va mal, sur le terrain, comme ça va mal à Québec, occupe-toi donc de tes affaires, puis reste à la maison.
Ben, c'est parce que, tu sais, moi, pour des dossiers concernant le tramway, ce qui va bien, ce qui va moins bien, de quelle façon ils l'ont fait là-bas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, ce serait des ingénieurs que j'enverrais plutôt que le gars que je charge de régler le problème de mes vidanges, ma récupération,
déneigement.
Mais ça, c'est nous autres qui pensons tout croche.
Ouais, c'est ça.
Merci, Jean-Saint-Ève. On t'écoute en fin de semaine au 99.5 Montréal.
Oui.
Bye-bye.
Salut.
Max, à la circulation, il y a deux problèmes. Capitale Ouest, il y a une certaine lourdeur par boule entre Saint-Gabriel et Laurentienne. Et puis, Charest-Ouest, là, c'est un méchant bordel. Je sais pas ce qui se passe sur le déneigement. Mais entre Marie de l'Incarnation puis Honoré-Mercier, je vous dirais, dans les deux directions, le Charest-Ouest, tout un bordel.
Après la pause, l'aspirant premier ministre du Québec, candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, sera avec nous, Bernard Drainville.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation,